Bienvenue à un nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, on commence ça avec Amazon Luna, maintenant disponible au Canada. Ben oui, lancé quelques temps après Google Stadia aux États-Unis. Amazon Luna est un service de jeu en streaming sur le cloud, sur le nuage, et c'est maintenant disponible au Canada. C'était sorti environ il y a eu un an aux États-Unis. Contrairement à Stadia, où le service de base était gratuit et on devait acheter les jeux à plein prix, comme on dit. Luna, lui, c'est seulement avec un service d'abonnement et ça donne accès à plusieurs jeux en streaming, donc tout le catalogue disponible, un peu à la manière du Xbox Game Pass. Luna, de base, c'est 12,99 par mois, canadien. Avec les jeux d'Ubisoft inclus, là, on monte à 22,99 par mois. Il y a une manette qui est disponible, mais qui n'est pas obligatoire, qui est, elle, en vente à 89,99. C'est, dans le fond, je ne dis pas obligatoire, parce que vous pouvez brancher n'importe quelle manette Bluetooth sur un équipement qui supporte Amazon Luna. Donc, par exemple, une manette de PlayStation ou une manette d'Xbox peut bien faire l'affaire. Par contre, la manette à 89,99, elle fonctionne un peu de la même façon que la manette de Stadia. Donc, elle se connecte au Wi-Fi et non au Bluetooth afin de réduire au minimum la latence. J'ai pu le tester sur ma vieille télé Amazon Fire intégrée. Ça fonctionne pas parfaitement, mais ça fonctionne très bien. Il y a des petites latences, des petits gels ici et là, mais je peux comprendre avec la télé que j'ai. Par contre, j'ai pu aussi l'essayer sur mon Mac, parce que oui, il y a une application sur Mac qui est branchée, lui, avec un fil Ethernet qui est récent. C'est un Mac M1. Ça fonctionnait comme si j'étais local. C'est assez impressionnant. Je vous dirais même plus impressionnant que Google Stadia, avec l'expérience que j'ai pu avoir. Et peut-être équivalent ou même une petite coche supérieure au Xbox Cloud Gaming. Bien entendu, il y a une application aussi sur PC, c'est jouable avec un navigateur WEM, sur les Fire TV, comme je disais, sur les Fire tablettes. Il y a une période de 7 jours, donc c'est avec ça que j'ai pu tester le service. La sélection de jeux, par contre, est très décevante. Quand ça a été lancé l'année dernière aux États-Unis, c'était pas mal mieux, il y avait des grosses licences. Là, maintenant, dans les grosses licences qu'on a, ben, comme je disais, si on prend l'abonnement d'Ubisoft, qui est quand même assez dispendieux, vous allez avoir accès à les jeux de la série Assassin's Creed, la plupart, puis les jeux Far Cry, mettons, dans les AAA. Si vous prenez l'abonnement normal, là, vous allez avoir des jeux de Capcom, comme les remakes de Resident Evil 2, Resident Evil 3. J'ai vu aussi passer Control, un jeu qui est quand même assez gros. Sinon, ben, ça le reste, c'est tous des jeux rétro, comme la compilation des Castlevania ou des jeux indie. Et tout ça, ben, c'est disponible dès maintenant. C'est la fin, malheureusement, le 27 mars prochain, des achats de jeux en ligne sur Nintendo 3DS et sur Wii U. On ne pouvait déjà plus en acheter avec une carte de crédit depuis un bon petit bout, mais là, il ne sera plus possible de le faire du tout, comme par exemple avec une carte cadeau Nintendo eShop. Vous pouvez toujours, par contre, retélécharger les jeux que vous aviez achetés pour une durée limitée. Nintendo n'a toujours pas précisé de date là-dessus. C'est compréhensible de la part de Nintendo de fermer ce service-là parce que, effectivement, c'est des sous pour eux pour des plateformes qui datent de plusieurs années. Par contre, c'est un autre bon exemple du côté négatif là, des jeux dématérialisés, des jeux numériques. Parce qu'il y a des jeux là-dessus qui ne sont jamais sortis physiquement, auxquels on ne pourra plus jamais rejouer. Ou, si on est chanceux, il va y avoir des ressorties, des remakes, des choses comme ça sur les consoles actuelles. Il y a eu le bel exemple avec beaucoup de jeux qui étaient sur la Wii, en format dématérialisé, comme le Castlevania Adventure Rebirth. Que là, c'est juste plus possible, à part, bien entendu, avec des services plus ou moins légaux là, comme l'émulation. Puis aussi, il y a des jeux qui coûtaient une somme astronomique en version physique qui, là, permettaient de l'avoir en version prix normal, si on veut, sur le eShop. Fait que c'est pour toutes ces raisons-là qu'un YouTuber a décidé d'acheter tous les jeux disponibles sur le magasin en ligne de la 3DS et de la Wii U. Après 328 jours, le YouTuber a terminé d'acheter et télécharger 866 jeux sur Wii U, répartis sur 3 disques durs externes pour un total de 1,2 teraoctets et 1547 jeux 3DS répartis sur 2 cartes micro SD pour un total de 267 gigaoctets. Tout ça dans le but de l'offrir au Video Game History Foundation afin de préserver les jeux numériques après le 27 mars. Tout ça, ça va y avoir coûté un beau 22 791 $ US répartis sur 464 cartes cadeaux d'eShop. Pour ceux qui se le rappellent, peut-être, c'est facile de comprendre pourquoi ça y a pris autant de temps avec toutes les limitations du eShop sur ces machines-là. Donc, en plus de la lenteur des machines ou du téléchargement, on ne peut pas acheter 22 000 $ de cartes cadeaux dans un même magasin. Ça a été conçu pour limiter la fraude. Peut-être que vous le saviez ou pas, là. Mais il y a une limite au niveau des cartes cadeaux que vous pouvez. Du montant d'une carte cadeau que vous pouvez mettre. On ne peut pas ajouter plus de 250 $ de cartes cadeaux à la fois sur l'eShop. Et on ne peut pas télécharger plus de 10 jeux. Dans le fond, de mettre en attente 10 jeux. On est obligé de tous les télécharger puis d'en repartir 10 autres. Donc, si ça vous intéresse, s'il y a des jeux là-dessus qui vous intéressent, si vous voulez faire un petit tour avant que ça disparaisse, si vous avez bien entendu toujours les consoles, dépêchez-vous avant qu'il ne soit pas trop tard. Sinon, sur Internet, il y a beaucoup de tutoriels, on pourrait dire, ou de top des jeux qui sont disponibles seulement sur cette plateforme-là, pas physiquement, pas sur d'autres consoles, qui vont, entre guillemets, comme je disais tantôt, disparaître à jamais. Peu de gens le savent, mais avec Netflix vient des jeux mobiles sans frais. Et même si c'est pas beaucoup utilisé, parce que soit le monde ne savent pas que ça existe ou parce que ça les intéresse juste pas, Netflix a annoncé quand même que son offre va grossir considérablement dans les prochains mois. Une cinquantaine de jeux sont maintenant disponibles présentement là, sur le marché, sur le store de Netflix Jeux, compte une dizaine à peu près à son lancement en 2021. Netflix annonce que 40 nouveaux jeux seront disponibles cette année, 16 titres actuellement en développement à l'interne, donc des Netflix Games, et 70 nouveaux titres en cours de création avec leurs partenaires, parce qu'il y a d'autres compagnies qui participent à la création de jeux pour Netflix. On pense par exemple au jeu des Tortues Ninja, Shredder's Revenge, qui est maintenant disponible en version mobile, mais il faut passer par le Netflix Game Store, si on veut. Le jeu qui pogne le plus, Séduction Haute Tension, l'amour en jeu, un titre inspiré par la série de télé-réalité Séduction Haute Tension ou Too Hot to Handle en version originale. Sinon, il y a High Water, un jeu indépendant de Demagogue Studio qui avait été annoncé pour 2023 sur PC, mais que le jeu est déjà sorti sur iOS et Android le 7 mars dernier via Netflix Game. Il y a Terranil de Devolver Digital, un genre de SimCity. Les versions iOS et Android vont être disponibles avec l'abonnement Netflix le 28 mars prochain. Il y a un roguelike de Ubisoft, Mighty Quest Rogue Palace, qui va sortir le 18 avril. On ne les passera pas toutes, mais on nous promet plusieurs sorties par mois durant toute l'année 2023. Donc, si vous êtes toujours abonné avec tout ce qui se passe avec Netflix, ben vous pouvez profiter de jeux mobiles si ça vous intéresse. Peu de temps après la sortie de Zelda Breath of the Wild sur Nintendo Switch et sur Wii U, pour ceux qui s'en rappellent, il y a une édition physique nommée Explorer's Edition qui avait été mise en vente pour relancer les ventes du jeu. Cette édition-là contenait un livret de 44 pages contenant des informations sur le jeu, des astuces, des belles images. Si vous n'avez pas acheté cette version-là parce que vous l'avez manqué ou parce que vous aviez déjà le jeu et que vous ne voulez pas payer pour le jeu, vous serez peut-être content d'apprendre que Nintendo a rendu disponible gratuitement en ligne ce petit guide en version numérique. Rien de très excitant, mais des affaires gratuites, c'est toujours bien pris. Il suffit tout simplement d'aller sur Zelda.com. Dans la section du jeu Breath of the Wild, vous allez avoir une sous-section qui s'appelle Media. C'est le même endroit où vous pouvez télécharger, par exemple, des fonds d'écran. Et là, maintenant, en PDF, est maintenant disponible en téléchargement ce fameux petit livre-là. Counter-Strike 2 annoncé officiellement par Valve cet été. Counter-Strike 2 sera proposé gratuitement comme une mise à jour à Counter-Strike Go, CSGO. On retrouve une refonte complète du gameplay, un réalisme accru, notamment à travers la mise en place d'un environnement beaucoup plus interactif qu'avant. L'arrivée de la fumée volumétrique se dispersant de manière plus réaliste avec les fumigènes, Nous retrouvons aussi les mêmes cartes que les anciens jeux. Mais là encore, Valve a effectué une refonte visuelle de ces dernières avec l'introduction d'un nouveau moteur graphique, de textures et de reflets plus réalistes. La précision des mouvements et des tirs a été accrue aussi. Toutes les autres nouveautés vont être dévoilées cet été. En attendant, vous pouvez voir des bandes-annonces explicatives là, de ce que je viens de vous parler. Les tests limités de Counter-Strike 2 débutent dès maintenant pour une petite poignée de joueurs. Il y a une pré-bêta, par contre, qui va être lancée là, à l'approche de la sortie du jeu. Et on termine ça avec Cooking Beer. Ben oui, Cooking Beer aura peut-être une suite ou une suite spirituelle. Elizabeth Banks, la réalisatrice et actrice, là, elle joue pas dans son film, mais vous la connaissez peut-être plus comme actrice, mais c'est elle qui a réalisé Cocaine Beer, a annoncé qu'elle serait prête à réaliser Cooking Shark. Ben oui, d'où vient cette idée-là? Dans le monde réel, la police néo-zélandaise a signalé avoir trouvé 3,2 kg de cocaïne dans l'océan Pacifique. Ça n'a pas été long pour que des scénaristes se mettent à imaginer un requin coqué qui se met à tuer sauvagement plein de touristes sur le bord d'une plage. Un concept un peu original, parce qu'on sait que pas mal tous les films de requins se terminent pas mal de même. Mais Elizabeth Banks a confirmé que si le script était aussi bon que celui de Ours sous cocaïne, elle va considérer sérieusement de le réaliser. Donc, si jamais c'est confirmé ou ça se produit, il y a une bande-annonce qui sort où on en parle, bien, ça va me faire plaisir d'en parler dans un prochain épisode. En attendant, par contre, vous pouvez toujours aller faire un petit tour là, sur Tubi TV, par exemple, où il y a des films toujours un peu très bas budget. Un peu aussi comme les films de la compagnie Asylum, que vous connaissez peut-être, qui font des films là, vraiment cheap avec des du CGI là, à chier et qui vont toujours profiter de lancements de gros blockbusters pour sortir des films et modifier un peu les titres. Là. Comme par exemple, quand Pacific Rim est sorti, eux ont sorti Atlantic Rim. Quand les Transformers sont sortis, bien, eux ont sorti Transmorphers. Et le fameux Titanic 2. Là, c'est pas Asylum qui réalise Cooking Shark. Mais c'est un peu le même équivalent. Fait que la bande-annonce est déjà sortie de ce Cooking Shark-là. C'est pas celui qu'Elizabeth Banks va réaliser. Là. C'est vraiment, comme je vous disais, il profite de l'engouement de Cooking Beer pour sortir un Cooking Shark. Et comme je vous disais, si c'est pas déjà disponible, ça va être disponible bientôt. Puis habituellement, ça se ramasse assez rapidement, gratuitement, sur la plateforme Tubi TV. Fait que c'est ça qui complète mon podcast cette semaine. On se reparle dans un prochain épisode. Bye bye!